Bonjour. Nous sommes avec Lionel, Jean-Michel et Thomas Roussillon à la Cinémathèque. Thomas Roussillon vient de passer son film Petite Main qui a été très apprécié par le public et on voudrait revenir avec lui sur le projet de son film. C'était qu'est-ce que tu voulais faire quand tu es allé à Yssingeau en fait ?
Alors, je venais de finir une histoire qui était un film documentaire, mon premier film documentaire, qui était l'histoire d'une lutte de migrants pour leur droit à leur relogement sur la région d'Angers. Donc c'est vrai que, un peu comme tout Français ou citoyen, j'avais été très touché par le témoignage des ouvrières, par leur colère, en premier, lorsqu'on leur a annoncé le 18 janvier 2012 la liquidation de leur entreprise, une des dernières entreprises de textile de la région et même de France, quoi. Donc ça a mûri, j'ai pas trop réfléchi et je suis parti, on va dire, essayer de m'installer une dizaine de jours à Yssingeau pour au départ me dire qu'il y a peut-être un film à faire encore sur une lutte et sur une lutte ouvrière féminine. Voilà. Et puis arrivé là-bas, j'ai rapidement compris que la lutte était bien amorcée, et parce que aussi très médiatisée, et qu'effectivement, je me suis posé la question de quelle place je pouvais avoir là, et donc là, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule, et j'ai voulu m'intéresser à qui étaient ces femmes et qui étaient ces doigts de fée dont on parlait beaucoup dans la presse et dont on développait pas les compétences, le savoir-faire et les 35 années de travail à la machine.
Oui, alors il faut rappeler qu'on est en janvier 2012, c'est-à-dire qu'on est en campagne électorale et que il y a dans ton film une espèce de, comment dirais-je, de télescopage entre l'intervention médiatique, tu l'as dit, mais aussi l'intervention politique. On voit le président en exercice et candidat Nicolas Sarkozy, et puis qui fait tout son engagement, comme quoi il ne laissera pas tomber les Lejabis, et puis la parole de ces ouvrières qui est tout à fait intéressante, touchante et profonde aussi.
Voilà, je voulais justement dans ce contexte-là donner la parole à ces femmes et seulement à ces femmes. Voilà, parce qu'il y avait 93 femmes dans cette usine et un seul homme qui était le mécano qui fait une succincte apparition. Et après, comment voilà rendre compte de la parole de 93 femmes, quoi. Donc construire un film finalement à 13 voix, 13 voix de femmes, 13 portées de femmes croisées pour raconter un petit peu l'histoire de cette usine et le rapport au travail de ces femmes-là.
Oui, donc dans le film, il y a l'aspect travail qui est très bien montré, comment on monte un soutien-gorge. Je pense qu'on apprend déjà tout cet aspect technique. Il y a l'aspect aussi des répercussions physiques sur les femmes, leurs problèmes de rhumatisme, leurs problèmes de dos, les doigts qui sont abîmés. Et puis, il y a tout ce qui est aussi l'atmosphère entre elles, la solidarité, mais aussi quelquefois les tensions qu'il peut y avoir entre elles sur les conditions de travail, sur la question de la productivité plus ou moins grande selon les ouvrières. Donc tu montres en fait une réalité qui est assez complexe et qui c'est un des grands intérêts de ce film.
Effectivement, je voulais essayer à travers une petite parole intime de rendre compte de la complexité de leur rapport au travail, qui dépasse justement le cadre du travail. À la fois le fait de le travail produit certaines souffrances, donc essayer de trouver le moment pour les aborder. Et c'est vrai que ce contexte, ça peut paraître paradoxal parce que le temps du documentaire est un temps long, mais en fait, comme j'étais présent pendant cette phase d'occupation, j'avais très bien compris en discutant aussi avec les ouvrières que d'une, j'avais l'âge de leurs enfants, donc que je crois qu'elles avaient une certaine empathie pour moi et que ça m'a servi pour installer une relation intime de personne à personne déjà. Et puis en plus le fait qu'on soit dans ce contexte qui était un contexte où pour certaines on se remettait en question de toute une vie et pas seulement de travail, quoi. Parce que les choix ayant été déterminés par le travail, le fait de vivre à Yssingeau, s'installer là, avoir une maison, sa famille, ses enfants. Donc c'était quand même une période de doute pour certaines. Et du coup, moi, effectivement, j'ai voulu m'extraire du temps médiatique parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de présence, c'était une occupation très vivante, il y avait beaucoup de passages, pas seulement des médias, mais des gens qui venaient se soutenir, etc., etc. Donc je voulais à la fois utiliser ce temps-là parce que c'était un temps quand même de réflexion et de doute chez elle, et être seul un petit peu avec elle pour aller un petit peu plus loin, quoi, justement, pour voir ce qu'il y avait au-delà de l'apparente solidarité aussi que la lutte. Parce que la lutte, c'est toujours facile, on les voit chanter. Voilà, devant les médias, utiliser aussi une solidarité parce qu'elles ont 35, parce qu'elles se connaissent très bien entre elles. Donc il y a une, quand on se connaît très bien, quand on est très proche, une complicité, pardon, ouais, une complicité très forte entre certaines, avec une créativité d'ailleurs énorme avec ces chansons. Et voilà, et par contre, moi je voulais justement sortir aussi de ça pour voir. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a une grande solidarité, c'est qu'il y a dû avoir des tensions et des divisions, quoi. Et aller explorer toute cette part d'ombre du fonctionnement d'une usine qui était voilà, un fonctionnement d'une usine capitaliste du 19e qui fonctionnait sur le découpage du travail à la chaîne. Et oui, donc,
taylorisée.
Une usine, oui, taylorisée, exactement.
Et avec le chronométrage qui suscite. Alors, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup idée. Mais cette espèce d'angoisse que de ne pas réussir à faire le travail dans le temps imparti, c'est énorme, en fait, la pression qui pèse sur elle.
Et puis je crois que ce qui s'exprime aussi, c'est la concurrence entre elles. C'est-à-dire qu'il y a le fait de ne pas arriver à faire dans les temps, mais il y a aussi le fait de la concurrence entre elles, de celles qui y arrivent, de celles qui n'y arrivent pas, de celles qui doivent se mettre en arrêt parce que ça les mine de ne pas y arriver. Enfin, je trouve que c'est très, très intéressant, ça.
Oui, et je rajouterais même que ça dépasse peut-être le montant des primes, qui sont finalement dérisoires. Donc il y en a qui faisaient leur fierté aussi, je pense, d'y arriver mieux que certaines autres. Ce qui est terrible, quoi. Voilà, c'est l'aboutissement d'un système, là, je peux te dire, qui fonctionne très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le témoignage justement de Marie-Claude, qui finalement se met en arrêt parce qu'elle a cru dire, elle aurait cru entendre que finalement elle se serait fait prendre un tichon parce qu'elle n'arrivait pas à remplir sa quantité. Et donc effectivement, en fait, elle tombe malade finalement d'elle-même, sans qu'il y ait une sanction, mais juste effectivement, peut-être même la pression sociale entre ouvrières dans l'usine, à la limite.
Oui, j'aurais juste une question là-dessus. Tu as parlé d'empathie et de sympathie à ton égard, de leur part. Simplement, moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est à quel point la parole est libérée. Alors qu'on est non pas dans une rétrospective, c'est-à-dire qu'on revient sur une situation passée d'une expérience de travail, mais on est dans un temps présent d'occupation d'usine. Et à quel point elles arrivent de façon très libérée à partager et à expliquer et à revenir sur leur expérience au sein de l'usine. C'est quelque chose qui me paraît assez incroyable, en tout cas très bien réussi. Je ne sais pas si tu as tout réussi en une prise, et si vous disposiez à la fois, toi et elle, de disponibilité, parce qu'occupation d'usine, manque de travail, on est là, on ne sait peut-être pas trop quoi faire, on est dans l'usine, mais on a le temps d'échanger, de partager. C'est quelque chose que je trouve très très fort, très réussi au sein du film. Comment tu as réussi ça?
Oui, c'est intéressant de soulever l'idée du comment ça a été fait, le dispositif. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, c'est quand même un film qui s'est fait dans un temps très court, puisque l'usine ayant été occupée le 18 janvier 2012, ils ont eu l'annonce d'une reprise le 1er février 2012, donc trouver une solution. Donc tous les témoignages n'ont pas été faits dans cet espace de temps-là réduit d'une dizaine de jours. Mais une bonne moitié a été faite dans cet espace de temps-là. Et j'y retournais après avec certaines ouvrières après, et c'était bien d'ailleurs de prendre le temps pour tout ce qui est fonctionnement, qui est important aussi dans le film de la place de chacune des ouvrières, comment était organisé le travail entre l'agent des méthodes, la monitrice, les mécaniciennes en confection. Donc tout ça, j'ai pu le faire après coup. Mais ce que j'ai voulu vraiment savoir, en fait, ce que je voulais vraiment avoir, c'est leur ressenti pendant cette période d'occupation. Donc c'est vrai qu'il représente peut-être un tiers de la parole de ces femmes dans ce film. Et pour cela, ce qui est vrai, c'est que pendant 2-3 jours, quand je suis arrivé, même si le temps était court, j'ai discuté beaucoup, énormément avec elles. J'étais présent dès qu'elles arrivaient le matin, parce qu'elles arrivaient comme si elles pointaient, même si l'usine était occupée. Il y en a qui arrivaient, qui mettaient leur blouse. C'est pour ça qu'il y a ces images-là aussi. Il y en a qui n'avaient pas du tout coupé, pas forcément pris la mesure de la fermeture de l'usine.
Je crois d'ailleurs encore à plusieurs reprises, elles disent s'il va y avoir le.
Et d'ailleurs, c'est sûrement ces témoignages que j'ai fait en premier, sans doute. Et après, c'est vrai que je pense qu'elles en parlaient entre elles, parce que les témoignages, évidemment, se sont étalés sur une dizaine de jours. Donc j'ai fait des entretiens entre trois quarts d'heure et une heure et demie, voire deux heures. Ça m'est arrivé avec chacune. Je tiens vraiment au mot entretien parce que c'est un dispositif que j'installe en optique fixe au 50 mm. Avec, c'est moi qui fais le son, donc j'installe une perche. Il n'y a pas un ingénieur du son, il n'y a personne. Et, voilà, et effectivement, la seule idée la plus simple qui soit, c'est de les installer face à leur poste de travail dans l'usine, parce qu'elles travaillent tous dans une seule pièce, un immense atelier, un immense open space, on dirait. Voilà. Mais d'essayer dans la mesure du possible, c'est pas vrai pour chacune, de les installer face à leur propre poste de travail, ou le poste de travail d'une collègue, ça a pas toujours été possible, mais avec le même dispositif, au 50 mm, et parfois après pour faire des gros plans. Voilà, donc je découpe l'entretien sur les questions un petit peu plus larges, évidemment le ressenti avec des plans plus serrés, les entretiens sont découpés comme ça en temps. Je prépare des questions. Au début, c'est assez, c'est un peu les mêmes questions pour chacune. Et puis après, je resserre. Évidemment, après, ça devient plus une discussion pour essayer d'avoir ce lien d'intimité qui dépasse un peu ce qu'on pourrait dire dans le cadre d'un reportage, quoi. Donc même sur un temps court, je pense qu'on peut prendre le temps. En tout cas, c'était ça l'idée, de parler des vrais problèmes et et de ce qui les préoccupe. Et c'était un temps, encore une fois, favorable à ça. Je ne suis pas sûr, on me l'a dit, parce que j'aurais pu avoir cette parole 3 mois plus tard. C'était cuit.
Moi, la question de Lionel et ta réponse, ça me fait penser à ce que Xavier Vignat dit de mai 68, du mouvement de mai-juin 68 et des assemblées générales. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu du temps pour parler. Donc ça n'a pas bougé, ça n'a pas produit beaucoup de choses dans toutes les usines, mais à ce moment-là, dans ce temps-là, il y a eu du temps pour discuter du travail, pour discuter des cadences, pour discuter des conditions de travail, pour discuter des syndicats, peut-être pour se féliciter ou pour critiquer les syndicats, selon, mais il y a eu ce temps de parole et qu'il y a eu des effets dans l'après mai-juin 68. Et je pense que ce temps d'occupation et d'oisiveté en même temps facilite cette prise de parole.
Ouais, complètement, quoi. Ça, je suis convaincu. C'est même très étonnant. Moi, je suis très étonné moi-même d'avoir pu recueillir ça finalement assez peu de temps. On peut prendre le temps avec peu de temps. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que si cette lutte, si on n'avait pas trouvé une solution aussi rapidement, ce qui s'est fait dans le contexte, on revient au contexte des élections présidentielles, parce que c'est dans l'histoire de la lutte ouvrière, je serais bien curieux de savoir. Finalement, il y a une solution de reprise en l'espace de 10 jours. Je crois que ça arrivait, je ne sais même pas si c'est la première fois, tout simplement. Il faudrait regarder un petit peu l'histoire des luttes ouvrières. Mais c'est vrai que là, entre la médiatisation, le fait que ce soit 93 femmes, qu'elles aient écrit, ça c'est intéressant, hein, c'est pas creusé dans le film, mais leurs chansons, si on lit en détail les textes, sont assez passionnantes quand même. Hein. Puis empruntent à plusieurs registres, quoi. Hein, de la chanson française, de Boris Vian. Et ça, c'est un truc où je dis oui, là, elles ont compris un truc du temps, par contre, court médiatique, où elles ont ému la France entière, ça c'est vrai. Alors, moi, ça m'est arrivé partout, tout le monde a entendu parler, pour le coup, des ouvrières, le jabi, quoi. Donc c'est vrai qu'avec le temps, avec encore plus de temps, si elles n'avaient pas trouvé de solution, je pense que on aurait pu ouvrir d'autres débats sur la SCOP, sur le travail, et sur la reconversion du travail. Comment on se reconvertit à 55 ans? Parce que moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'on veut aussi...
Quand on a passé un CAP 40 ans auparavant.
Quand on a passé un CAP 40 ans auparavant.
Alors, moi, je veux quand même dire encore quelque chose, si ça a sa place. Mais je peux pas te laisser terminer ta dernière intervention en disant que tu as fait un énième film sur une fermeture d'usine. Parce que tu as fait un film extraordinaire sur l'expression de travailleuses confrontées à un licenciement, et avec ce mot de gâchis qui revient très souvent. Et voilà ce que je voulais dire.
Du coup, effectivement, je me suis très mal exprimé. C'est plutôt que il y a aussi une dimension très mélancolique, et que c'est très triste de voir à travers cette usine une disparition de tout un territoire. Et peut-être que soient gagnants des visions telles celles de Michel Houellebecq sur l'avenir de notre territoire en France, quoi. Parce que c'est, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est encore un film sur une délocalisation, comme peuvent me répondre les diffuseurs à la télé. Et c'est ça. C'est en ça que finalement, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour garder ce travail-là en France? Ça pose cette question-là, mais c'était assez mal exprimé.
Donc aucune chaîne de télé n'a voulu ton film.
Si, nous avons, parce que par contre je suis convaincu de la dimension cinématographique sur la parole de ces femmes, j'ai eu un grand plaisir de diffuser le film au FIPA à Biarritz, qui est un festival de, quand même, où les diffuseurs télé sont présents, et donc un diffuseur Public Sénat a depuis diffusé le film à la télé cette année, voilà, en mars 2015, qui a été diffusé d'ailleurs à plusieurs reprises, donc c'est super parce que ça montre aussi l'aboutissement d'un travail que j'ai filmé et monté seul, mais accompagné par une production et Jean Bigot, qui a produit de nombreux films sur la question du travail. Pour ceux que ça intéresse, on peut ouvrir sur ça aussi, puisque c'est lui qui a produit les films de Marcel Trias, donc sur la condition ouvrière, les prolos, parmi voilà, beaucoup de films aussi sur la lutte ouvrière. Et du coup, ceci plus cela a fait qu'effectivement, le fait qu'il ait été enfin diffusé à cet endroit-là a fait entendre la parole ouvrière un peu plus loin, et je suis très content qu'il ait pu être diffusé après à la télé. Voilà.
Merci beaucoup, Thomas. Et Jean-Paul évoquait les propos que tu as tenus en fait, lors du débat, parce qu'on le rappelle, pour cette émission Grémoise du mois, en fait, on se replonge dans cette journée du 26 janvier, il y a un mois, où Thomas Roussillon présentait son film pour deux séances à la Cinémathèque. Et lors de la première séance, s'en est suivi un débat avec la salle. Et c'est ce que l'on va retrouver à l'instant pour cette deuxième partie et fin d'émission du Grémoise de ce mois. Merci Thomas, merci Jean-Paul, merci. Et Jean-Michel.
Et merci à vous. 2016, l'année de La Braise.
C'est un endroit personnel, tu mets tes affaires personnelles dans le vestiaire, c'est encore... Oui. C'est vrai qu'on arrivait, on mettait nos affaires là, puis on échangeait le matin, là-bas, notre nuit, nos histoires, quoi, un petit peu. Et ça, cette habitude-là, je pense que, voilà, on s'y accroche encore à cette habitude-là. On reste dans l'automatisme encore, peut-être.
J'aime bien ma blouse, c'était mon lieu de travail, je l'avais tous les jours. Il y a peut-être des chefs qui ne mettaient pas de blouse. Moi, j'aimais bien ma blouse. Il y avait des poches, j'avais mon stylo, le réglé, les ciseaux, tous les outils à portée de main. Et aujourd'hui, j'ai simplement le stylo.
Toutes les filles qui sont montées de Firmini, vous les verrez très rarement sans blouse. Elles ont toutes une blouse. Je sais pas, c'est comme ça. Et c'est vrai que je suis plus à l'aise avec ma blouse.
Cette nuit, je ne trouve pas le sommeil. Les images, les mots se bousculent dans ma tête. J'entends encore le bruit des machines, l'image des postes occupés, l'assemblage, le piquage, les surpiqûres, la machine 15 deniers, l'élasticage, les crochets, le cache-armature, le bordage, les étiquettes à poser, tant de vocabulaire. Cette précision de travail au millimètre près, cette polyvalence, cette production demandée. Cette vie d'amitié, de partage, les mariages, les naissances, les anniversaires, les sorties entre filles, les chagrins. Je n'arrive pas à réaliser que tout est peut-être fini. Quel gâchis! Même à l'agonie, nous hurlerons à l'injustice. Quelle force a cette lettre si sa fonction devient pétition? Ensemble et déterminés, signons.
Il y a 13 femmes qui étaient moines dans ce film, d'accord ? Sur 100 à l'époque, il y avait 100 personnes dans cet atelier, 93 exactement. Et à l'époque, en fait, on leur a proposé, suite à cette lutte, de retravailler dans le même endroit. Et elles ont accepté, et de refaire du cuir, c'est-à-dire d'apprendre un nouveau métier, parce que piquer le cuir, c'est très dur. C'est même plus dur que parfois la couture. Et donc, on va dire qu'il y en a deux tiers, peut-être la moitié aujourd'hui, sur les 93 qui ont tenu ou qui sont pas partis à la retraite, mais qui retravaillent dans le même lieu pour faire du cuir, pour faire des doublures intérieures des sacs Vuitton. Voilà, c'est le groupe LVMH qui, suite à la lutte qu'il y a eu effectivement pendant la période de lutte, avait proposé de reprendre les ouvrières. Voilà, je tiens à le préciser quand même.
Et c'est un film très émouvant, très humain. Ça va d'ailleurs provoquer ma question à la fin, mais d'abord deux trois remarques. J'ai beaucoup apprécié la présentation de la technicité, de la performance de ces personnes, de leur capacité importante. J'ai beaucoup apprécié aussi les rapports humains dans l'entreprise, et ça montre bien que le travail, ce n'est pas simplement un salaire, heureusement, parce que leur salaire a quand même réduit, mais c'est aussi des rapports humains, des rencontres, des gens. C'était pour la plupart une grande partie de leur vie. Ma question est... va porter sur l'absence des syndicats. Alors, c'est peut-être une réalité ou c'est peut-être un parti pris par rapport à le fait de privilégier les rapports individuels et les rapports humains. Mais ma question, est-ce que les syndicats ont participé ? Alors, bon, il y a juste une mention à un moment d'une salariée qui parle du soutien des syndicats, mais ils n'apparaissent pas dans le film.
Pour être le plus clair possible, c'était une de mes premières volontés dans le film, de pas filmer leur lutte. Donc forcément, derrière cette lutte qu'il y avait à Yssingeau, vous avez vu que c'est pas un film sur la lutte, c'est un film de témoignage sur 35 ans de vie de travail de ces femmes dans cette usine, d'abord. Et elle est quand même présente parce que j'ai décidé de faire ce film dans cette période de lutte. La lutte a été portée par un monsieur que je respecte beaucoup et qui m'a appris beaucoup de choses, qui est monsieur Raymond Vacheron, qui est depuis à la retraite, qui était donc de la CGT, et le responsable de la départementale de la filière textile, CGT. Donc c'est à lui qu'on doit aussi beaucoup de cette lutte, parce qu'il était toujours en retrait, ça c'est vrai. Pourquoi j'ai pas filmé ça ? Parce que c'était, comme je l'ai dit avant de commencer le film, ça a été ultra médiatisé, vraiment. Quand je dis ultra, je crois pas que je sois excessif, hein. Parce qu'il y a des journées où il y avait, il y a eu des télés du monde entier, hein. Il y a eu des télés japonaises, danoises, Al Jazeera, là on voit Canal Plus, ITV, BFM, mais c'était vraiment d'une ampleur internationale. Donc c'était un brouhaha absolu, je vois pas ce que j'aurais pu, voilà. Oui, allez-y.
Bon, en fait, à propos de le fait qu'il y ait beaucoup de trop médiatisé, il y a eu beaucoup de télévision de l'étranger et tout ça, c'est en fait chercher un preneur pour garder les salariés et garder l'usine en elle-même.
Complètement, vous avez raison de le préciser. Hein. Je dis juste, moi, qu'est-ce que je venais faire là-dedans ? Vous comprenez ? Je n'allais pas refaire ce que d'autres font, peut-être ouais. Mieux. et je suis d'accord avec vous, je l'ai vu de l'intérieur pour voir ce qu'est un processus de médiatisation qui a fait que dès que ces ouvrières ont pris conscience de ça, il y a une chanson qui est présente dans le film, vous avez peut-être vu à la télé à l'époque, ça tournait en boucle sur BFM, et je vous garantis que c'est vrai que ça a fait basculer aussi le rapport de force à un moment donné, parce que ça a ému vraiment à la fois les médias et les gens. Il y a eu un processus qui a fait qu'effectivement on s'intéressait à leur histoire, hein. Vous l'avez peut-être suivi cette lutte d'ailleurs à la télé sans avoir suivi la lutte de Grandrange, enfin il y a plein de gens qui ont suivi cette lutte qui sont pas du tout qui s'y intéressent pas du tout grâce aux médias, attention, oui. Moi je disais juste pour finir de répondre à monsieur que ma place, moi de cinéaste ayant filmé une lutte par ailleurs avant de migrants, cette fois-ci je me suis dit ah non mais c'est juste impossible parce que on se marchait sur les pieds, et puis je vous dis il y avait un bois qui était pas propice à la parole, quoi. Voilà, c'est simple. Donc ça a été tout l'enjeu, moi, de mon travail, à un moment, de me dire, tiens, mais en fait, oui, il y a la lutte, oui, elle va être filmée, puis en fait, oui, elle va être. J'avais le sentiment qu'elle allait être résolue assez vite, cette lutte, à partir du moment où il y a eu ce dialogue avec le président direct, qu'il allait se passer forcément quelque chose. Ça, c'était sûr, ça allait très très vite, d'ailleurs, c'est très rare dans l'histoire des luttes ouvrières, je crois qu'en l'espace de 10 jours, on leur a proposé une solution. Malgré tout, qui est critiquable ou pas, mais on leur a proposé une solution d'une reprise, ce qui n'arrive pas aujourd'hui nulle part. Voilà, donc évidemment, je critique pas les médias. Mais moi, par contre, j'avais envie de faire un truc plus attentif à ces femmes, effectivement, dans ce que vous disiez, monsieur, en tout cas d'essayer de me rapprocher au plus près d'elles, de ce que c'est, voilà, de 35 ans, d'une vie de femme à la machine, et que moi, je fais partie d'une génération. Hélas ou pas, où on a tous déjà connu à 20, 25 ans de multiples emplois précaires, et que c'était une tentative aussi de comprendre comment on peut rester 35 ans dans une usine comme celle-ci.
Alors Thomas, moi j'avais envie de dire que si tu étais au milieu du brouhaha, c'est un véritable exploit, parce que justement tu es arrivé à ce que ces femmes racontent leur vie, leurs souffrances, leurs joies, les cadences, enfin, etc., etc. Moi, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Et c'est à se demander comment, justement, tu es arrivé à te rapprocher de ces femmes pour qu'elles parlent de façon, j'ai envie de dire, aussi intime de ce qu'elles avaient, de leur vécu dans cette usine.
Pour compléter sur ton dispositif, on voit quelques caméras passer. Ce n'est vraisemblablement pas des caméras de télévision. Est-ce que c'est ton équipe? Elles te disent « tu ». Donc, comment cette intimité qu'évoque Jean-Paul, combien de temps tu as passé, ton dispositif, comment tu t'isoles avec une femme pour la faire parler dans un contexte qui est assez silencieux? Est-ce que c'est à des moments où il y a peu de monde dans l'usine ou, enfin, comment tu as fait?
Oui, alors c'est vrai que par contre, que, dès que je suis arrivé là-bas, je suis arrivé le lendemain du premier jour d'occupation de l'usine. Donc je suis resté quand même 10 jours là-bas, 24 heures sur 24, parce que j'ai sympathisé très vite avec Hélène, une ouvrière que vous voyez, qui dit ça fait drôle, aujourd'hui il n'y a plus personne qui chante. Ce qu'on voit au début, lire la lettre de licenciement. Voilà. Cette femme, je me suis senti rapidement très très proche d'elle. Donc elle m'a invité, puis, donc, c'est-à-dire que je dormais là-bas. Donc j'étais là 24 heures sur 24. Donc c'est vrai que les moments de calme sont souvent dès que les médias sont partis le soir en fin de journée. Hop, je faisais des interviews quand j'attendais qu'à des moments il y ait personne. Et en fait pendant tout le retentissement médiatique, l'organisation de la lutte, parce que vous savez le matin, chaque matin il y a une assemblée générale qui était interdite aux journalistes. C'est pour ça aussi que j'ai pas filmé ça. Voilà, donc la journée est très bien organisée, bien découpée comme ça, hein. Donc pendant ces périodes là c'est là que je faisais, pendant on va dire la première semaine, je filmais pas mes repérages, et puis l'intimité recherchée, c'est une affaire de sensibilité avec certaines personnes. Je peux donner juste un exemple, par exemple Françoise que vous voyez, qui est une femme assez forte avec un t-shirt bleu ciel, qui parle de ses déformations aux doigts, sa souffrance au travail. Ça, c'est un sujet, par exemple, qui était très dur de parler de leur souffrance physique. C'est, j'ai des petites choses, mais ça a été une grande difficulté par pudeur, tout simplement. Hein, parce que vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont faits opérer le canal carpien. Voilà, oui, tout le monde connaît l'histoire. Mais personne n'a voulu m'en parler, par exemple. C'est quand même étonnant. Donc, c'est pas si simple. Mais je veux dire, cette Françoise, en fait, je l'avais repérée déambulant dans l'usine, toujours avec le tricot à la main, quoi. Donc maintenant, vous comprenez peut-être mieux l'histoire, et c'est des images comme ça qui ont fait que je me rapprochais d'une ou d'une autre. C'est parce qu'en fait, voilà, je me demandais comment on peut continuer à faire du tricot toute la journée, parce que simplement, après 8 heures de travail, tous les soirs, elle faisait 3 heures de tricot depuis qu'elle a 15 ans.
Oui, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de grande pudeur par rapport à ça, au travail, et à la perte de travail.
Oui, complètement. Moi, j'ai été... après, ce qui m'a... Il faut toujours un moteur, parce qu'un film, c'est long. Et le montage, ça dure plusieurs mois. On écoute, on réécoute, on réécrit. Enfin, j'ai réécrit, par exemple, tout ce qu'elles m'écrivent. Et vraiment, je m'arrêtais pas de me dire, mais c'est incroyable, comme il y en a qui n'ont pas forcément le CAP, hein. Comme elles s'expriment bien, simplement, avec dignité. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai gardé ce dernier témoignage, là. Monsieur, vous parlez de ça. Pour moi, c'est l'incarnation de cette pudeur, de cette femme qui arrivait seule.
Il y en avait certaines, j'ai trouvé qu'il y avait un regard dur, un petit peu.
Ah bah oui. Ben ouais, c'est quand même. On peut quand même rappeler le fait qu'on a passé la réforme des retraites est passée 3-4 ans, le rallongement de la durée du temps de travail est quand même passé il y a 2-3 ans. Il y en a qui ont lutté, qui ont manifesté pour ça. La moyenne d'âge est de 52 ans, donc la grande majorité a été à 2-3 ans de la retraite. Donc le regard dur, je pense que c'est ça qui a fait que ce licenciement était le licenciement de trop, quand même, si vous voulez.
Oui, mais. J'ai envie de dire oui mais en même temps, ces femmes, elles expriment que c'est une partie de leur vie qui est en train de se jouer. C'est-à-dire qu'il y a toute cette rancœur contre les cadences, contre la souffrance au travail, mais je trouve que ce que tu captes aussi, c'est que c'est là qu'elles sont ensemble. C'est que il y en a qui disent mais ma vie elle est là parce que je sors très peu. Enfin, il y en a une qui dit ça en particulier, parce que je sors très peu et c'est là que je suis avec mes copines, c'est là que je suis en train de me bagarrer pour ma vie. Alors, il me semble qu'il y a ce double aspect, parce qu'il y a toute cette rancœur et en même temps, tout ce qui serait perdu si, en tant que relation humaine, si l'usine était fermée. Donc le travail, il a aussi cet aspect de vie pour ces femmes, cet aspect vital pour ces femmes, il me semble.
Vous avez aussi très bien montré, et je trouve que les femmes sur ce plan-là sont exceptionnelles, c'est la fierté qu'elles ont du travail bien fait. Ça, c'est extraordinaire quand vous voyez les salaires à 9,50 € ou 9,57 €. Enfin, on ne peut pas dire qu'elles sont au SMIC, Elles ont 5 centimes de plus que le SMIC. C'est horrible. Et d'un autre côté, elles nous parlent de la fierté du travail bien fait après 35 ans. On les qualifie de petites mains et finalement, elles sont des seniors au travail. Alors aujourd'hui, le JABI existe toujours, mais simplement, le travail qui était fait en France doit être fait, je suppose, en Thaïlande ou Philippines ou je ne sais, avec des personnes qui gagnent 1 euro ou 1,50 € de l'heure, à peu près, certainement. Et les productions sont toujours vendues au même prix. Donc je crois qu'on a tout compris sur la lutte de le JABI. C'est que finalement, on fait des mêmes productions avec pas la qualité à l'étranger. Et finalement, c'est vendu au même... Si encore c'était vendu au prix de production, non, c'est vendu au prix d'avant avec des ouvrières du tiers-monde qui sont encore plus exploitées que nos sympathiques islingelaises.
Alors la dernière information que j'avais là-dessus, elle remonte à 2 ans. Le travail que faisaient ces femmes était fait à Sfax, la ville du textile en Tunisie, où vous avez aussi certains des revendeurs chez qui nous allons, comme Zara ou H&M, je ne sais pas, en tout cas Zara, je suis sûr. Il y a une ville du textile, Sfax, et en tout cas, elles travaillaient pour 48 heures, donc, parce que malgré tout, à Issingeaux, là, elles étaient donc aux 35 heures. Et oui, voilà, obligatoire. Et donc en Tunisie, elles font ouais des semaines de 48 heures. Je regardais et pour un salaire évidemment, mais bon, qui est pas comparable. La vie n'est pas la même là-bas. Vous dites l'usine là-bas?
Tunisie, oui.
Elle est fermée maintenant l'usine
oui,
là-bas.
Oui,
en Tunisie.
Elle est fermée.
Peut-être.
Oui,
alors
beaucoup,
là, je sais.
Oui.
Il y en a beaucoup qui ferment. Oui, récemment oui. Pour aller dans des pays oui, effectivement fermée, où oui. La main-d'œuvre est moins chère. Ce que je dis là, ça date de y a 2 ans, donc c'est possible que celle-ci elle a fermé, ouais.
Bien, oui. Alors, je voulais particulièrement féliciter Thomas. Bravo. Grâce à ce film, on est réunis ici tous et on peut dialoguer sur le monde ouvrier. Alors, pour ça, déjà, 3 fois bravo. Hein, ce que je retiendrai de ce film, c'est malgré que la direction mettait tout en œuvre pour opposer les ouvrières entre elles, en mettant des primes de 100 euros à certaines et pas à d'autres, en les opposant sur des cadences de travail, etc., ils n'ont pas réussi à briser la bonne ambiance qu'il y avait. Alors ça m'a particulièrement plu.
Alors, oui, complètement. C'est-à-dire qu'elles ont su se réunir au moment où il fallait. Quoi. Parce que j'ai aussi fait le film, vous avez bien compris que les primes avaient effectivement pu diviser. Mais quand il a fallu lutter, là, oui, ça a été vraiment une solidarité féminine assez incroyable. Hein.
Oui. La dame qui disait qu'on ne veut pas d'avoir de primes individuelles, mais une augmentation pour toutes les ouvrières. Et ça, c'était impeccable, c'était bien. Donc, il y a l'esprit collectif qui domine, d'une part. Et comme on le sait toujours, les actionnaires, ils ne cherchent qu'à s'enrichir. Ils s'en foutent éperdument pour le personnel qu'ils emploient. Et c'est la raison pour laquelle il y a ces délocalisations, là où l'ouvrier est payé 10 fois moins cher qu'ici en France. Quant au produit, il est vendu au même prix.
Si je peux me permettre, comme on est un certain nombre à être un petit peu âgés dans cette salle, il y a un esprit dans ce film qui ressemble aux luttes des années 70 que vous avez dû vivre, avec en particulier cette histoire des cadences qui était déjà posée, l'histoire des primes qui était posée, alors que dans un certain nombre de luttes, par exemple à Peugeot, la revendication, ce n'était pas des primes, c'était un minimum commun pour tous les ouvriers. C'était un salaire de base commun pour tous les ouvriers. Et c'est ce que dit cette dame 30 ans après. Et donc, il y a quelque chose d'une répétition de ces luttes en fait, des années 70 ici qui se jouent dans cette lutte-là.
Et alors après, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais je crois qu'elles avaient débrayé à un moment donné quand même dans cette usine, hein, justement, pour les refuser, ces primes. Mais évidemment, ce n'était pas la majorité non plus. Donc je nuance un peu le... Voilà. Parce qu'après, bon, j'ai vu de l'intérieur aussi, quand il y a eu la reprise de l'usine, voilà, les petites différences de l'époque peuvent ressurgir assez vite quand même. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait 3, 4 et 5 figures féminines dans cette usine aussi. Voilà, donc Bernadette Pesmes, cette femme que vous avez peut-être vue à la télé avec sa blouse, qui était effectivement déléguée syndicale CGT. Mais la boucle est bouclée, je réponds encore à monsieur, je n'avais pas envie de les sous-titrer parce que c'était une ouvrière et une mécanicienne comme les autres. Voilà, donc c'est pour ça.
Peut-être un mot sur ce que peut développer et ce qu'on peut voir comme capacité quand ces ouvrières sont en lutte. Vous avez parlé de leur capacité de prendre la parole, la capacité de s'organiser et la capacité de créer des slogans. Il y en a une qui a dit « les primes, c'est la déprime ». C'est magnifique.
Oui, mais je crois qu'elle avait tourné en manifestation, celle-ci. Prime égale déprime.
On parlait de fierté du travail. Pour avoir entendu beaucoup d'histoires, alors plus masculines ici, dans l'industrie minière ou sidérurgique, je suis en effet, je trouve que ton film est fabuleux de ce point de vue-là, sur le gâchis. Alors des matériels, des installations, mais des savoir-faire humains, du savoir-faire ouvrier, cette transmission, cette histoire, et puis alors qui est très liée à notre territoire, comment l'industrie ne tient pas du tout en compte, ne prend pas du tout en compte cette transmission des savoir-faire humains qui existait d'une manière même pas toujours organisée. Enfin bon, on a entendu parler d'agents de méthode, etc. Mais pourquoi ce n'est pas mis dans une économie, ces savoir-faire?
Ah ben là, j'aurais, faut reconnaître que j'aurais du mal à répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que les enfants, puisqu'il y a l'idée de la transmission, quoi, leurs enfants ont mon âge et il n'y en a aucun qui continue dans ce domaine. Pourtant, il y a une école de couture, je crois, à Saint-Jean. Enfin, sur ce volet-là, je réponds juste sur celui-là. Et en revanche, ce qu'il y a d'intelligent aujourd'hui, je reconnais ça aussi, c'est qu'ils ont quand même pensé, par celle de la reconversion, je vous ai dit, maintenant elles font du cuir, et donc les anciennes qui n'ont pas été, qui n'ont pas pu reprendre parce que ou elles partaient à la retraite, ou elles n'avaient pas envie, ou elles n'en avaient plus le courage, parce que comme je vous l'ai dit, c'est très dur de reprendre un autre métier à 55 ans, ils ont aujourd'hui, ils embauchent, parce que c'est Louis Vuitton, parce que, etc. Mais donc il y a quand même... Cette reprise d'usine, elle a été pensée quand même avec la génération future, quoi, qui fait le lien avec. Alors je sais pas combien. C'est assez. J'ai pas assez de recul là, parce que je sais que toutes les jeunes qui arrivent restent pas forcément, mais en tout cas il y a un début d'amorce à ce niveau-là. Quoi. Après sur la politique, effectivement de transmission de ce savoir-faire, étant donné qu'il y a plus de textile en France, quoi. Je veux dire, je crois que la dernière usine au BAD, c'était quelques années avant, a fermé. Il n'y a plus de production du tout, quoi. Vous avez on a parlé de la semaine dernière, puisque ça tombe bien, c'est la semaine de la lingerie. Il y a eu le salon de la lingerie à Paris. Donc la maison Le Jaby y est représentée, hein, qu'avec des modèles haut de gamme, dont Taille Saint-Jean, elle faisait, vous l'avez peut-être compris à des moments, un ou deux modèles. D'ailleurs, j'ai jamais bien compris comment elles avaient un ou deux modèles de luxe à faire rapidement, alors qu'elles faisaient plutôt, vous l'avez compris, des modèles, on va dire, grand public, puisque c'est des longues séries. Voilà. Mais les articles de la maison Le Jaby, rien n'est fait en France, quoi.
Or, on est dans l'industrie du luxe, et toutes les représentations, y compris de fabrication, sont la main de l'ouvrière. Ouais. Peut-être petite main, mais là, c'est la période des collections, de présentation des collections. On fait aussi les portraits des ouvrières qui montent les robes, etc. Enfin, il y a l'industrie du luxe.
Une petite unité de création, et peut-être, si Jean-Paul, tu as des informations là-dessus, je ne veux pas dire de bêtises, hein. Le siège social de Le Jaby était à Rieux-la-Pape. À côté de Lyon. Donc il reste ce siège, mais si vous voulez, il conçoit les modèles, mais il ne les fabrique pas. C'est pour ça, voilà, en gros, il y a les prototypes, voilà, exactement. C'est tout, quoi. Alors qu'on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que je sais qu'il y a même un projet, avec évidemment, initié encore par le groupe LVMH, de créer, je crois, je crois que c'est une école de commerce dédiée à la représentation de gens pour aller rechercher des marchés à l'international et faire connaître mieux nos produits de luxe. Mais en engageant le respect de faire travailler aussi des gens en France, parce que ces grands groupes-là font travailler quand même les petites mains en France. Hein.
Je sais, j'ai eu la chanson.
Non, ici les salariés, voilà. Il y a plus de 30 ans qu'on verrait rentrer, notre usine, on voulait la conserver, ici les salariés. Oh, on s'est fait berner pour nous chronométrer, nous cesser. Pendant des années, ça a duré ici les salariés. Oh, on s'est fait berner. Alors sur la pédale, on a appuyé. Pourtant, on se dit qu'on est les meilleurs ici les salariés.
Il y avait une unité de production l'année dernière qui existait encore, je crois, à Bellegarde sur Valsorine, où il y avait une petite coopérative de production, mais elle devait être 4 ou 5 à travailler. Et à travailler souvent sur commande, d'ailleurs. Mais j'ai pas eu d'informations. Ça, c'est le. Parce que, en même temps que le film, il y a une pièce qui a été produite et qui est déjà passée à Lorme et qui va repasser dans la région. Je crois qu'on nous.
Voilà. À la Talaudière, le 4 ou 5 mars. Je veux dire
tu peux bêtises. Donner la date, peut-être? Le 4 ou 5 mars. Ouais. Voilà. C'est la metteuse en scène, la réalisatrice de cette pièce qui nous avait parlé un soir après le film, et après la pièce, de cette unité de production. Mais depuis, je n'ai pas d'informations.
Alors, je crois qu'elle a fermé.
Oui. Alors, Lionel me dit que le film passera le 4 mars et la pièce le 5. Donc, à la Talaudière.
À plate couture, ça s'appelle.
La pièce s'appelle À plate couture. Et à plate couture et petites mains, ça va bien ensemble, je trouve. Ouais.
Mais les petites mains ne sont pas à plate couture.
Il me semble qu'à la fin, donc les ateliers vidés, les machines partant dans des camions, il me semble qu'on voit la première personne qui les place. Est-ce que c'est pas toi ? Non, c'est pas toi. C'est vraiment des ouvriers qui sont en train de déplacer les machines.
Non, je suis pas encore Hitchcock.
D'accord. Je suis pas des... Ok. J'avais cru te reconnaître et j'allais te demander ce que tu voulais dire par là.
Mais non, et d'ailleurs, c'est des ouvriers, je crois, polonais, donc ça, quand même, qu'on fait venir d'un autre pays pour venir envoyer les machines, c'est du délire. Hein. Alors là, c'était le comble. Ouais, ils n'ont jamais pu me dire où est-ce qu'elles repartaient les machines, c'est incroyable. Hein. Trois ouvriers qui viennent et en une matinée, ouit.
Oui, oui. Moi, alors bravo pour le film, bien sûr. Et puis, ce que je voudrais dire, moi, c'est toute cette violence. Que subissent ces femmes finalement. C'est ça qu'il faut bien qu'on mesure. La première scène où la dame lit sa lettre de licenciement, c'est d'une violence, je sais pas, c'est terrible, c'est terrible. Et je dis ça aujourd'hui pour bien, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent la violence ou la soi-disant violence des salariés qui est mise en avant et qui est punie par la justice. Et cette violence-là que subissent les salariés dans leur ensemble, parce que aujourd'hui c'est encore pire que ce que vous avez filmé peut-être il y a 3 ans. Hein. Et ben, cette violence-là, elle est complètement acceptée, et les gens qui la mettent en œuvre ne sont absolument pas inquiétés au niveau judiciable, je veux dire. Hein. On risque d'envoyer les salariés en prison parce qu'ils sont violents dans leur lutte, et la violence qu'ils subissent, cette violence-là, elle n'est pas du tout remise en cause. Et les gens qui décident des choses comme ça ne sont pas inquiétés au niveau de la justice. Ouais. Mettons le monsieur qui a signé, le DRH qui a signé cette lettre de licenciement, qui a peut-être provoqué des drames parmi les salariés qui sont frappés, ce monsieur-là, jamais il ne sera. Et puis bien sûr, au-delà de lui, les décideurs, tous ceux qui décident tout ça, ne sont jamais inquiétés.
Bah oui, je partage votre point de vue. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu commencer le film par cette lettre de licenciement. C'est pour ça que ça pouvait pas être qu'ailleurs que chez cette ouvrière qui m'avait spontanément hébergé. Et j'irais même vous dire que c'est la seule de toutes celles qui est dans le film qui est passée par l'hôpital psychiatrique, quoi. Comme par hasard, on a envie de dire. Donc vous avez pointé juste, on pourra faire autant de films que l'on veut. On rendra jamais assez compte de cette violence-là, quoi. Voilà. Donc ça, c'est évident que voilà. Et puis condamner les ouvriers récemment de Goodyear, tous les travailleurs aussi chez Air France, voilà. C'est pas ce que je me fais d'une certaine idée de la gauche. Ça, c'est une évidence, quoi.
Juste sur Goodyear, ce que je voulais dire, c'est que on est en 2016. C'est la première fois depuis 1948 que des ouvriers sont condamnés à la prison ferme pour fait de grève. Donc c'est une belle régression quand même.
Oui, merci de le préciser.
Moi, je voulais dire aussi que c'est que tu as bien su, enfin qu'au niveau de la réalisation, peut-être en ne donnant la parole qu'aux ouvrières, c'est quelque chose qui avait été remarqué à Lorme dans le débat qu'on avait déjà partagé, où quelqu'un avait fait remarquer que tu n'avais donné la parole qu'aux ouvrières. Toi, on ne te voyait jamais. Et il me semble que ça, la violence, on la ressent d'autant plus qu'on a des ouvrières qui nous racontent, évidemment, il y a les sentiments qui affleurent, mais qui nous racontent leur vie qui nous raconte le gâchis que ça représente, qui parle de, vraiment de décadence, par exemple, ou de la souffrance au travail. Et je trouve que là, du point de vue de ton travail, c'est vraiment une très grande qualité de ce film, en fait, de nous montrer à ce point, justement, la violence qu'elles subissent.
Ouais, c'était important après pour moi, pour qu'on la comprenne, qu'il y ait eu cette phase justement où on comprenne ce qu'elle faisait, toutes les étapes, vous avez vu, de la fabrication du soutien-gorge, et après effectivement tout ce volet où ça reste, comme certaines personnes me disent des fois, mais on travaille, alors il y a des gens qui me disent en fait elle travaillait encore comme au 19e siècle. Bah oui, mais il y a des gens, je vous assure, quoi, on me dit des fois des films militants comme cela ne servent à rien. Les gens redécouvrent ça parfois quand on projette les films et ça se passe bien en 2015. Quoi. Donc après, pour essayer de faire sentir ça, c'est vrai que l'idée, c'était par thème aussi, il n'y a pas que le tournage, il y a au montage, une volonté de décortiquer comment était organisé le travail et comment il était divisé et qu'est-ce qui faisait que c'était un fonctionnement proche du taylorisme, quoi, hein, le capitalisme à l'ancienne qui n'a pas changé. Et voilà, donc étape par étape, qu'on puisse mesurer que ce n'est pas juste une violence spontanée, c'est que ça fait des années que cette mécanique est mise en place et qu'on s'est approprié aussi cette manière de travailler-là, quoi, avec beaucoup effectivement, de dignité, quoi.
Oui, donc ça fait, on est au mois de janvier et ça fait 4 ans ce mois-là que l'entreprise Le Jabi a fermé. Que sont-elles devenues ?
3 ans.
3 ans, allons-y pour 3 ans, oui. Que sont-elles devenues ? Qu'est-ce que ça aurait été bien si on avait eu 2-3 ouvrières, 10 un jour, qui soient là dans la salle, oui, ce soir ?
Oui. Mais alors, on peut, pour tout ce qu'on vient de dire, pour la dignité, le respect, etc., je veux dire, elles en ont un peu ras-le-bol, quoi. Parce qu'elles ont porté un film où, si vous voulez, puisqu'on parlait de la violence, ensuite il y a aussi peut-être le deuil. C'est comme on le disait, il se joue bien autre chose que le travail, quoi. C'est toute une vie. Hein, si cette Hélène s'est effondrée à ce moment-là, c'est que toute la vie est construite autour de ça. Je veux dire, la maison, la famille, les enfants, on ne va pas rentrer dans tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que y en a qui ont eu du mal à se reconstruire. Donc les premières projections. Et en tout cas en Haute-Loire, elles sont toujours venues et ça a été très très chouette de porter ça, quoi. Bernadette Pesmes, qui est la porte-parole, qui a suivi les projections peut-être un peu plus loin que les autres souvent, qui était aussi le porte-parole de la lutte, vient de passer à la retraite et à chaque fois là elle m'a dit voilà, elle sait qu'il y a une projection là, elles savent tout, elle m'a envoyé un petit mot, elle m'a dit voilà, bonne projection, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez, le film en plus ne traite pas de la réussite de leur lutte. Donc elle, je veux dire, son cheval de bataille, c'était de gagner la lutte. Parce qu'elles ont quand même, réussi une lutte. Le film a volontairement pas parlé de ça. Vous voyez ?
Je voulais juste ajouter 2 mots, justement, pour la lutte, et j'y reviens. Pour des femmes qui n'avaient jamais, qui n'étaient pas adhérentes à aucun syndicat, d'après moi,
si.
Ou à peine.
Si,
là, c'est quand ça leur est tombé dessus, elles ont su se battre. Alors là, bravo. Mais je voulais dire, si elles avaient reçu une aide extérieure, c'est-à-dire que les Issingelais défilent dans les rues pour les aider, ça n'aurait pas été malvenu.
Mais c'est arrivé, monsieur. Même les commerçants, incroyable.
J'ai suivi la presse à l'époque, je n'ai pas vu que les habitants se battaient pour
cette boîte. Vos lunettes, monsieur. Voilà. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Attends. Même un article de l'Éveil, je pense à peu près la même chose. Parce que l'Éveil a couvert, c'est le journal de la presse conservatrice de la région. Non. Dans tous les journaux, on parlait de l'affaire Le Jabi. Tous les bords confondus, il y a eu des très très bons articles. Les commerçants ont même édité une affiche qu'ils transportaient sur leur voiture. Ils ont fait une caisse énorme. Moi, ils m'ont même, je veux dire, il y a eu une caisse de lutte comme dans toutes ces luttes, vous savez, maintenant. Alors, ouais, ce qui est génial. Alors, ça, par contre, c'est un truc intéressant. Toutes ces luttes aujourd'hui, il faut savoir qu'elles récoltent de l'argent. La France entière a envoyé des courriers avec les commerçants se sont donnés, ils apportaient à manger, etc. Mais enfin, c'est pas vraiment de ça dont on a besoin à ce moment-là. C'est de médiatiser et de manifester. Mais je veux dire, les commerçants avaient participé, les habitants aussi, il y avait eu des manifestations. Saint-Jean, c'est 6 000 habitants. Je crois qu'il y a eu près de 1 000 personnes une fois, vous vous rendez compte, un sixième de la ville. Donc, c'était le corps vivant, de cette ville. Donc, de toute façon.
Le fait que c'était à l'approche de l'élection présidentielle a beaucoup joué dans la médiatisation. Et ça a été une fenêtre. Oui, mais elles s'en sont servies.
Elles s'en sont servies.
Elles s'en sont servies au service de leur lutte.
Elles ont été très intelligentes. Et là, oui, voilà, pardon, c'était des syndicats. Et là, heureusement que vous aviez Raymond Vacheron, monsieur aussi, mais monsieur, comment dire ? C'est rare que les syndicats. Non, je tiens à remettre une chose qui est importante aujourd'hui, parce qu'à force de taper sur les syndicats. Ça fait rien avancer, et voilà où on en est, quoi. Si les syndicats n'ont pas de force, voilà, ils peuvent plus peser maintenant dans les décisions. Il faut remettre une chose qui est importante, quoi. Je le sais très bien, je suis de la génération où toute la jeunesse est désengagée et critique le poids des syndicats. Donc je suis très content d'avoir vu un monsieur qui savait s'effacer, dont personne n'a retenu le nom ici, mais qui est le bras de manœuvre de cette lutte. Parce que dans Haute-Loire, c'est lui qui a sauvé je ne sais pas combien d'emplois, monsieur Raymond Vachon, quoi. Voilà, qui a une histoire fameuse dans la Haute-Loire. Ça serait l'objet, d'ailleurs, qui s'intéresse aux histoires des luttes de toute la région, qui est passionnant. Il y aurait de quoi faire un bouquin juste sur ce monsieur. Mais ce monsieur, il était là juste pas pour leur dire ce qu'elles avaient à dire, quoi. Pour être là derrière en appui sur cette lutte et pour, à des moments, effectivement, avec les médias, voilà, jouer ce jeu-là qui fait qu'elles ont su, parce qu'elles étaient bien encadrées, aussi utiliser les médias. Et je pense vraiment qu'à des moments, elles ont su l'utiliser. Je vais vous donner un exemple très précis. C'est pas dans le film, mais j'étais là le jour où s'est tournée toute la journée sur BFM TV l'annonce de la reprise par Laurent Wauquiez et le futur repreneur qui est toujours là, qui s'appelle monsieur Vincent Rabérin de Vuitton. Donc, il était venu annoncer la bonne nouvelle par communiqué de presse de l'Elysée, en grande pompe. Toutes les chaînes étaient là, iTélé, BFM TV, etc. Il est arrivé avec son porte-parole en disant voilà mesdames, comment ça va se passer la journée aujourd'hui, alors que je vous rappelle, l'usine est occupée. Il est arrivé avec tout le monde, hop, le représentant, il nous donne des tracts à tout le monde, on a tous un papier. Donc on sait ce qu'on va entendre, tout est préparé, on sait ce qu'il va dire à la télé, on sait ce qu'il va faire, et on sait surtout ce qu'on ne va pas avoir le droit de dire, quoi. C'est surtout ça, quoi. Donc il est arrivé, et effectivement, il a dit, bah voilà, monsieur Wauquiez, comme vous le connaissez bien, maintenant qu'il est président de la région, il va falloir s'y habituer. Il arrive, en gros, je suis chez moi, voilà comment ça va se passer. Ici, on va faire ça, j'annonce la reprise de l'usine, et puis, enfin, s'y habituer ou pas. Je reviens quand même, excusez-moi. Donc il dit, voilà, ça va se passer. J'annonce la reprise. Nous allons filmer une ouvrière qui fait ci à tel poste de travail. Nous allons faire ci, voilà. Et là, oui, je vous l'accorde, il y en a qu'un qui a dit non, non. C'était une voix d'homme, c'était M. Vacheron qui était encore là, qui a dit non, non. Ici, vous n'êtes pas encore chez vous. Mais je vous rappelle qu'on occupe l'usine. Et il y avait toutes les télés. Il a dit, ah non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est là, on est chez nous. Vous nous annoncez votre offre. Et on n'a pas encore dit si on allait l'accepter ou pas. Mais voilà, c'est ça la lutte, quoi. Vous voyez, donc à un moment, heureusement qu'il y a l'expérience de ça, quoi. Parce que Laurent Wauquiez, il arrive, et franchement, c'est une qualité exceptionnelle. Hein. Je veux dire, il a une mémoire d'enfer. Il arrive, il vient vous voir, il me dit, Bernard, souvenez-vous, machin. Donc il fait comme ça avec tout le monde, hein. Bernadette. C'est-à-dire, toutes les ouvrières qui pouvaient être leur mère, il leur parle comme à toi et à moi. Hein. Je veux dire, voilà. Donc il les met dans sa poche en 2 secondes, 3 mouvements, et voilà. Et la lutte, c'est aussi apprendre ça. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ça. Parce que je trouve que ouais, elles ont été exceptionnelles. Et elles avaient débrayé, et il y avait eu. Alors je dis pas que toute l'usine est CGT, hein, il y a un CE, elles sont 6 ou 7, il y en a 3 qui parlent dans le film. Voilà, donc n'allez pas vous dire que c'est un film CGT non plus, c'est pour ça que j'ai pas mis ça, mais c'était pas du tout représentatif de la majorité de l'usine. Mais il y a des personnes qui avaient eu l'habitude aussi de mener des luttes, entre autres pour les retraites, etc. etc.
Des films sur les luttes sociales, on en a vu, il y a toute une histoire de documentaires qui ont été réalisés pendant des luttes. Je pense à LIP, je pense à Entre nos mains, etc. Les cinéastes étaient souvent intéressés à des tentatives de création coopérative. Là, ça n'émerge pas du tout parce qu'il y a justement cette proposition politique, économico-politique. Tu parles de ces filles qui savent gérer les médias et donc cette montée en épingle, enfin, ces pointures politiques. On est peut-être dans les présidentielles, ceci explique cela, mais l'idée de créer une société coopérative pour reprendre la boutique n'est jamais évoquée à aucun moment.
Si, question très intéressante. Alors, je vais rappeler une chose aussi très importante, parce que parfois, ici peut-être pas, mais il y a toujours des gens qui confondent. Il y a eu une expérience de SCOP, le Jabi, qui s'appelait les ateliers, qui a finalement coulé cette année. Voilà. Et oui. Mais les ateliers étaient justement les anciennes ouvrières de le Jabi aussi, mais du fameux site du siège social de Rieux-la-Pape. Oui. Voilà. On va pas parler de ça. Il y a ceux que ça intéresse. Il y a eu un petit film diffusé sur France 3. Qui raconte un peu l'histoire de cela. Par contre, à Issingeaux, c'est vrai que ça allait très très vite, puisque je le disais, rappelez-vous, le jour de l'occupation 18 janvier 2012, annonce de la reprise par Laurent Wauquiez et le futur patron le 1er février 2012. Donc on a trouvé une solution en 12 jours. Donc pas le temps de se poser quand même beaucoup de questions, mais en plus, c'est vrai qu'il y a un monsieur du textile, assez âgé, qui est venu dire oui, dans les années 70, vers Rouen, je crois. Oui, il y avait une, je ne sais plus le nom de l'usine. Il y avait eu déjà une reprise aussi en scope. Donc, il était venu et il y avait des idées, quoi. Voilà. Si ce n'est qu'à, c'est vrai que la plupart qui auraient été susceptibles de porter ce genre de projet étaient à 2 ou 3 années, c'est vrai, de la retraite. Donc, à un moment donné, il y en a qui disaient, bah oui, c'est pas qu'on n'a pas passé l'âge, mais là, nous, en fait, ce qu'elles voulaient profondément, toutes, c'est avoir absolument un travail pour la simple et bonne raison qu'elles voulaient avoir leurs annuités pour la retraite, quoi. Donc la plus grande motivation, c'était ça. Sinon, celles qui avaient ou les moyens ou fini de reprendre la maison, ou de payer la maison, pardon. Je veux dire, il y en a qui n'ont pas voulu reprendre, hein, parce que psychiquement, c'était pas possible, parce que c'était trop... voilà. Mais il y a eu cette... voilà. Et c'est intéressant de, voilà, de parler, effectivement, il y a eu un film Entre nos mains, de Mariana Otero, un très beau film sur une reprise, par contre, que le film commence sur la reprise, donc intéressant, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai fait un film, un énième film, soyons honnêtes, sur une fermeture, quoi. Il y en a eu plein, il y en a eu des très bons dans le documentaire. Et voilà. Et malgré le soutien de l'État, malgré le soutien de la fameuse banque publique qui a été créée plus ou moins pour ça et d'autres choses, mais je ne pourrais pas vous en donner les réponses, si ce n'est que le carnet de commandes, j'ai cru comprendre, elle s'était positionnée sur le très haut de gamme, des articles à 1000 euros. Je serais curieux, j'ai même rencontré le réalisateur qui a fait ce film, mais j'ai pas bien compris pourquoi, au fond, ça n'avait pas fonctionné parce que beaucoup de gens attendaient ça. Je pense que le premier client restait le Jabi. Donc elle avait fabriqué pour revendre à le Jabi et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y avait une trentaine, il y a eu toute une politique de formation aussi de jeunes pour apprendre ce métier et puis ça n'a pas tenu, quoi.
Oui, il a fait allusion à un moment à toute la complexité du groupe avec 8 ou 9 entreprises, 9 usines, 9 sites. Dont celui de Firmini qui a fermé avant. Donc il y en a une qui vient de Firmini qui parle. Alors première question, est-ce qu'il y en avait d'autres? Est-ce que tu as une idée du nombre? Et est-ce que tu as senti une différence dans le peu de temps que tu es resté de culture entre les filles qui venaient de Firmini et celles de Dissingeau?
Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a toujours resté l'équipe de Firmini et les filles qui avaient la blouse et qui envoyaient du steak, quoi. Ben là, je parle assez clairement. Et j'ai cette image-là. À travers justement Marie-Jo, qu'on voit là, parler de celle qui avait la plus haute prime. D'ailleurs, Marie-Jo est un super bel exemple parce que c'est l'ouvrière modèle, si on veut. C'est-à-dire qui produit, qui est en forme, qui est dynamique, et elle est voilà, un sacré bout de femme, quoi. Mais presque qui, quelque part, était fière, et à la limite, si les autres ne font pas aussi bien, c'est qu'elles n'y mettent pas assez de. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne me l'a jamais dit clairement, mais il y avait un peu de ça. Et elle en est revenue parce qu'elle, elle travaille toujours là-bas. Et elle en a ras-le-bol, quoi. Donc si elle en a ras-le-bol, vraiment, là, moi, je me demande ce qui doit se passer là-bas. Parce qu'il y a un truc qui est vrai, hein, ça, c'est vrai. C'est que pour les doigts, les positions debout aussi, pour le cuir, ce qu'elles font maintenant, il y a quelques ouvrières qui font de la coupe debout, donc elles sont debout toute la journée. Et c'est pas une des plus âgées, hein, Marie-Jo. Et elle fait partie de cette équipe-là, je crois, parce que justement, elle a bien la patate, donc on a décidé de la mettre debout et à faire la coupe du cuir. Et après, les autres piquent le cuir à la machine, ce qui est visiblement très dur. Et la formation, comme elle a été décidée pendant cette période d'élection présidentielle, la formation au cuir a été faite en 3 mois. Et c'est quand même, elles disent, un autre métier, ça a été fait, ça a été un peu rapide. Et un peu dur, parce qu'elles ont attaqué, figurez-vous, leur formation 1 mois après l'annonce de la reprise. C'est-à-dire que le 1er février, quand Laurent Wauquiez avait décidé, voilà, hop, on vous annonce la reprise. 1 mois plus tard, elle devait déjà travailler. Et c'était un calendrier, là, pour le coup, c'est même pas comme une de communication présidentielle, nous allons dire, parce que, pour mémoire et pour rigoler un petit peu, M. Sarkozy était venu les voir. Il fallait qu'elles aient commencé à travailler pour que Nicolas Sarkozy vienne les voir dans l'atelier. Le 8 mars 2015, le jour de la journée de la femme. Et là, la presse, je peux dire, relisez-la, parce que c'est fameux, ça. M. Sarkozy qui vient les voir en leur disant, mais regardez-moi, peut-être que dans 2 mois, je vais faire comme vous, je vais devoir me reconvertir. Et elle disait, vous voyez, c'est facile, je vais me reconvertir, moi c'est facile, je suis même plus âgé que vous. Il leur a dit. Ouais, il va peut-être le regretter dans un bouquin l'année prochaine.
Je crois qu'on peut le remercier.
Bravo.